Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Si nous n'étions pas dimanche aujourd'hui, nous devrions fêter Sainte Marie-Madeleine, la sainte patronne et protectrice de l'ordre des prêcheurs. Elle est le modèle des âmes pénitentes qui, en aimant notre Seigneur Jésus-Christ au-dessus de tout, est parvenue à la plus haute sainteté. Nous pouvons observer trois étapes dans sa vie qui correspondent aux trois âges de la vie spirituelle. De ces trois étapes, nous en tirerons un enseignement pour notre avancement spirituel. La première étape va jusqu'à sa conversion. Sœur de Lazare et de Marthe, elle s'appelait Marie. Elle vivait à Béthanie, tout près de Jérusalem. Ayant perdu leurs parents de bonne heure, les trois frères et sœurs formaient une famille unie. C'était une noble famille, possédant de grands biens à Béthanie, Jérusalem et Magdala. Tous les trois avaient reçu une éducation soignée qui s'alliait aux plus riches dons de la nature. Marie, la plus jeune des trois, était d'une rare beauté. Elle voulut très vite prendre son indépendance, à l'âge de 17 ans environ. Elle quitta la maison familiale de Béthanie pour s'installer dans la propriété de Magdala, qui lui vaudra son nom de Marie de Magdala ou Marie-Madeleine. Là, elle vécut dans le luxe, entretenant de nombreuses relations mondaines avec les jeunes seigneurs de la région. Sa vertu ne put résister longtemps à un tel genre de vie. Bientôt, elle devint ce que l'Évangile appelle une femme qui était pécheresse dans la ville. Par cette expression, il ne faut pas en conclure avec les ennemis de l'Église et les modernistes qu'elle fut une femme de mauvaise vie. Les saints et les auteurs anciens se sont interrogés et leurs arguments sont irréfutables. Six temps ont trois principaux. Le premier est qu'elle était très riche. Elle n'avait donc pas besoin de vendre son honneur. Le deuxième, les pharisiens n'ont jamais fait de critique sur ce point à Jésus. Il n'y aurait pas manqué, alors que la loi juive rejetait du peuple de Dieu les femmes de mauvaise vie. Le troisième argument, elle n'aurait jamais été admise aussitôt après sa conversion en la compagnie de la très sainte Vierge et des saintes femmes à suivre Jésus dans toutes ses courses apostoliques. Cela aurait créé un scandale parmi les proches du Seigneur. Une vie dissolue ne rend pas heureux. Très vite, Sainte Marie-Madeleine sentit l'aiguillon du remords, augmenté par le souvenir de la vie heureuse qu'elle avait menée à Béthanie. Son âme, dégoûtée de la vie qu'elle menait, rentra en elle-même, comme celle de l'enfant prodigue, cherchant une eau vive qui pût la désaltérer. Elle avait environ 22 ans. La renommée de Jésus était déjà parvenue jusqu'à elle. Alors que Jésus prêchait dans la région, elle décide d'aller l'écouter. Les paroles de Jésus ont dû être comme des flèches choisies, dit saint Jean Chrysostome, qui touchèrent son cœur. Et il cite quelques paroles, entre autres, « Venez à moi, vous tous qui êtes affligés, et je vous soulagerai, et vous trouverez le repos de vos âmes. » À partir de ce moment, elle est convertie. Puisque sa vie de désordre a été un scandale public, elle va s'humilier publiquement. C'est pour ça qu'elle se rend chez Simon le pharisien, où Jésus était invité à dîner. L'Évangile commence à nous parler d'elle en racontant tous les détails de cette scène qui sont riches d'enseignements. Vous connaissez la scène, elle essuie les pieds de Jésus après les avoir arrosés de ses larmes et enfin elle les oint d'un parfum précieux. Par ses larmes silencieuses répandues aux pieds de Jésus, elle manifeste publiquement la conversion qui s'est opérée dans son cœur. Le vase rempli de parfum d'un grand prix qu'elle brise et dont elle répand le contenu sur les pieds de Jésus, représente son cœur brisé de douleur et le parfum de la dévotion qu'elle vient offrir à son Sauveur. Son cœur sera désormais totalement donné à Dieu. Dans cette scène, Jésus loue son amour. Elle a beaucoup aimé. Cette contrition parfaite et sa confession silencieuse, publique, lui ont valu d'être élevé à un degré si éminent de grâce que le cardinal de Bérulle ne craint pas de dire que son cœur, pénétré d'amour céleste, est devenu un trône de la pureté même. Quelle paix intérieure elle a dû goûter quand Jésus lui dit « Allez en paix ». C'est comme s'il lui avait dit « Allez, racontez à votre famille, aux pécheurs, les miséricordes que je réserve aux âmes repentantes. Dites à tous ce que vous éprouvez au fond de votre cœur. Dites-leur qu'il leur suffit d'aimer Jésus Sauveur. Partout où règne son amour, il n'y a ni péché, ni crainte, ni tristesse. » À partir de ce moment, Marie-Madeleine quitte Magdala et revient à Béthanie, dans sa famille, complètement transformée. Une nouvelle vie commence pour elle. L'évangéliste ne l'appellera plus pécheresse, mais par son nom, Marie. Quel enseignement pouvons-nous en tirer? Une vie de péché ne rend pas heureux. Parce que la rançon du péché, dit saint Paul, c'est la mort. La suppression de la vie surnaturelle et ses conséquences. L'homme devient esclave des passions et la proie des démons. Sainte Marie-Madeleine avait 7 démons. La vie devient un fardeau de plus en plus lourd à porter. L'âme assoiffée est comme une terre desséchée que les plaisirs, les séductions du monde ne peuvent abreuver. Alors il n'y a qu'une solution, s'approcher de Jésus Sauveur. Nous pouvons le faire, comme sainte Marie-Madeleine, en nous approchant du sacrement de pénitence, où Jésus, par la bouche de son ministre, redit aux pécheurs pénitents « Allez en paix ». Mais pour entendre cette heureuse sentence, il faut imiter sainte Marie-Madeleine. Comment ? En nous reconnaissant vraiment pécheurs et en le manifestant par une contrition sincère et profonde. En nous approchant de Jésus avec confiance, il ne brise pas le roseau à demi brisé, il n'éteint pas la mèche qui fume encore. Il est le bon pasteur. En nous accusant avec courage, simplicité, et humilité, sans rajouter de nombreux détails qui souvent deviennent des excuses à nos péchés. Enfin, en prenant une résolution ferme de couper avec les occasions de péché. Il faut, après la confession, quitter définitivement Magdala et vivre à Béthanie avec les amis de Jésus. Les occasions de péché, ce sont des lieux, certaines fréquentations, des objets, comme Internet par exemple. Tout notre amour doit être pour Dieu. Il ne peut être partagé. Il doit être ordonné en tout à Dieu. La deuxième étape de la vie de sainte Marie-Madeleine, depuis sa conversion jusqu'aux premières persécutions déclenchées par les Juifs. Les évangiles nous parlent des saintes femmes qui assistent de leur bien, Jésus et le collège apostolique. Marie-Madeleine est toujours citée en tête des saintes femmes après la Sainte Vierge. Elle a donc, de par la Sainte Écriture, la primauté d'honneur sur toutes les saintes femmes. Dans ses courses apostoliques, les occasions sont nombreuses d'écouter les enseignements de Jésus, de s'en nourrir, comme elle le fera au cours du repas préparé par Marthe à Béthanie. Ces enseignements de Jésus tombent dans le cœur de Madeleine comme dans une bonne terre qui produira 100 pour 1. Marie-Madeleine expérimente ce que dit le psalmiste. « J'ai couru dans la voie de vos commandements lorsque vous avez dilaté mon cœur. » Ce cœur dilaté, elle le manifestera publiquement lors de la seconde onction de parfum chez Simon le lépreux, une semaine avant la Passion. Son cœur aimant a pressenti le drame de la Passion. C'est pourquoi elle a fait cette onction. Et notre Seigneur, par ses paroles, immortalisera son geste en lui donnant sa signification. Elle a anticipé les honneurs dus à ma sépulture. Et partout où on prêchera cet évangile, on parlera de cet épisode. Jusqu'ici, il était doux pour Marie-Madeleine d'aimer Jésus. Mais l'heure de la croix a sonné. Jésus éprouve les âmes qu'il aime et il les associe à sa passion. Si Marie-Madeleine a la primauté d'amour parmi les saintes femmes après la Sainte Vierge, elle aura après elle la primauté des souffrances. Au pied de la croix, Marie-Madeleine découvre l'horreur et la malice du péché, son péché. Le péché est à découvert, il n'a pas revêtu les attraits enchanteurs lorsqu'il se présente à nous. Là, il apparaît tel qu'il est devant la justice divine. Elle est là impuissante, elle ne peut que contempler les souffrances de son Sauveur, sans aucune possibilité de le soulager. C'est un tourment pour son cœur. Sa douleur est en proportion de son amour. Alors là, au pied de la croix, elle satisfait de la plus terrible manière. Elle reçoit une forte et nouvelle impression d'amour, qui lui vaudra de voir la première après la Sainte Vierge, le Seigneur ressuscité. Le troisième jour après la crucifixion, son amour la pousse à se rendre au sépulcre pour embaumer le corps de Jésus. Ne le trouvant pas, elle reste là, inconsolable, jusqu'à ce que Jésus lui apparaisse, l'appelant par son nom, Marie. Jésus lui dit ensuite, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va vers mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Par ces paroles, Jésus-Christ l'établit apôtre des trois mystères les plus grands et les plus consolants. La résurrection, l'ascension et la divine fraternité à laquelle nous sommes tous élevés. Après l'ascension, Sainte Marie-Madeleine attendit au Cénacle avec les apôtres, la très sainte Vierge Marie et les saintes femmes, la venue du Saint-Esprit. Ici se termine le récit des saintes Écritures sur sa vie. La tradition rapporte avec certitude qu'elle participa avec la très sainte Vierge et les apôtres au premier développement de l'Église, jusqu'aux premières persécutions déclenchées par les Juifs. Quels enseignements allons-nous tirer de cette partie de la vie de Sainte Marie-Madeleine ? Comme elle, nous avons Jésus pour ami et sauveur. Nous l'avons dans les sacrements. Nous avons comme elle la très sainte Vierge Marie, qui par la vraie dévotion nous fait vivre dans son intimité. Nous devrions donc grandir en sainteté tous les jours, être dévorés de zèle pour annoncer aux âmes sans espérance de notre temps les trois mystères les plus consolants. La résurrection de notre Seigneur, il est vraiment ressuscité, et par conséquent, notre propre résurrection future. l'ascension de notre Seigneur, nous invitant à rechercher les choses d'en haut et à vivre d'une vie profondément surnaturelle. Notre filiation divine, nous sommes fils adoptifs de Dieu depuis le baptême, héritiers du royaume des cieux, frères de Jésus-Christ. N'est-ce pas formidable ? Le moteur de l'ascension prodigieuse de Sainte Marie-Madeleine fut son grand amour de Jésus. C'est cela qui nous manque souvent. C'est pour cela que notre vie stagne. Demandons-le aujourd'hui à Sainte Marie-Madeleine. Mais qu'est-ce qu'aimer, me direz-vous ? Aimer, c'est se renoncer, porter sa croix courageusement et suivre Jésus. C'est-à-dire accomplir toutes les manifestations de sa volonté, les commandements de Dieu, les enseignements de l'Évangile, sa volonté de bon plaisir, manifestée par les dispositions de la divine providence. Nous arrivons maintenant à la dernière partie de la vie de Sainte Marie-Madeleine. Elle ne se passe plus en Palestine, mais en Provence. Lors des premières persécutions, les saintes femmes, avec plusieurs disciples, furent mis dans un bateau sans voile ni rame. C'était une manière raffinée de les faire périr. Mais la Providence avait d'autres vues. Ils abordèrent miraculeusement en Provence, au Sainte-Marie de la Mer. Après avoir aidé Saint-Lazare, évêque de Marseille, et Saint-Maximin, évêque d'Aix, dans leur apostolat, Sainte Marie-Madeleine ressentit de plus en plus fortement l'appel de la vie contemplative. Mue par un irrésistible attrait et une inspiration divine, elle découvrit la grotte de la Sainte-Baume, située dans un site majestueux, entouré d'une nature extraordinaire. Cette grotte semble avoir été faite exprès pour elle. Elle y vécut 30 ans, dans une vie pénitente, nourrie seulement de la Sainte Eucharistie, Sept fois le jour, elle était portée par les anges sur un rocher situé 100 mètres plus haut que la grotte, le Saint-Pilon. Par sa pénitence, elle mérita une grande gloire au ciel. Et ces élévations sur le Saint-Pilon, cette fois le jour, symbolisent les élévations que notre Seigneur réalisait jour après jour dans son âme jusqu'à une très haute union mystique. Pourquoi trouver ces privilèges un peu bizarres dans la vie des saints? Il y en a de nombreux autres, et pourtant des saints qui sont moins élevés en sainteté que Sainte Marie-Madeleine. Enfin, Sainte Marie-Madeleine mourut consommée d'amour, assistée de Saint-Maximin qui lui donna la sépulture, et son tombeau se trouve à Saint-Maximin en Provence. Quel enseignement pouvons-nous tirer de cet épisode de la vie de Sainte Marie-Madeleine ? Il ne peut y avoir de vie d'union à Dieu durable et croissante sans vie de pénitence, sans méditation des mystères de notre salut. Quelle part donnons-nous à la pénitence dans notre vie ? Attendons-nous le carême pour en faire quelques-unes ? Pourquoi ne pas consacrer le vendredi à s'y exercer en souvenir de la passion de notre Seigneur ? Prenons-nous du temps, ne serait-ce qu'un quart d'heure, pour méditer sur la vie de notre Seigneur ? Méditons-nous le chapelet quotidien ? Quand on aime, tout est possible et ne coûte pas. Alors, si nous manquons de zèle pour mener une vie plus intérieure, demandons à Sainte Marie-Madeleine un peu de cet amour dont brûlait son cœur pour notre Seigneur, afin que nous aussi nous puissions courir dans la voie des commandements et travailler sérieusement à notre salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.